Bonjour à tous, ni vu ni connu pour les tontons du hobby, c'est maintenant.
Babouchko!
Salut à tous, ici ni vu ni connu pour un nouvel épisode des tontons du hobby. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau jeu d'escarmouche, c'est Burrows and Badger. Et pour ce fait, je reçois aujourd'hui l'administrateur de la page francophone avec qui nous allons pouvoir échanger, parler du système de jeu, de l'univers, des figurines. Donc aujourd'hui, je reçois Gwenaël. Salut Gwenaël.
Salut Nivu et bonjour à tous. Alors, pour ce premier... Oui, vas-y.
Non, excuse-moi. Alors, aujourd'hui, on te reçoit pour Burrows and Badger. Et c'est un petit jeu d'escarmouche dont tu es l'administrateur de la page francophone, comme je disais en intro. Qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur ce jeu voilà.
Alors, Burrows and Badger, bon, comprenez pour les non-anglophones, c'est terrier et blaireau. Donc clairement, c'est un jeu animalier. Il s'agit d'un jeu créé par Michael Lovejoy et publié chez Osprey Games. Vous pouvez acheter les règles en format numérique pour 17 livres de mémoire et pour 20 livres le livre de règles papier. D'ailleurs, on va s'arrêter 2 minutes sur ce livre. C'est entièrement en couleur, papier de qualité, ça on a l'habitude, de magnifiques illustrations. J'ai oublié le nom de l'illustrateur. Et il vous mettra dans l'ambiance dès la couverture. Vos aventures en Northumbra seront magnifiques, animalières et épiques. Car oui, Burrows and Badger, on incarne des animaux. C'est un jeu anthropomorphique, ce qui veut dire que vous contrôlez des animaux qui se comportent comme des humains, à l'imagerie proche de, on va dire, Robin des Bois de Disney, pour les plus vieux.
D'accord. Et alors, tu parles donc d'animaux anthropomorphiques, et est-ce que il y a une gamme dédiée pour ce jeu, ou comment ça se passe ?
Alors, à ma connaissance, aujourd'hui, il y a deux gammes. Il y a la gamme officielle, celle de Osworld Miniature. Je pense que tu mettras le lien dans la description.
Parfait.
Donc, c'est sculpté et diffusé par Michael Lovejoy, le créateur du jeu, et sa compagne, Joe Osworld, je crois. Et il y a une autre marque qui peut être partiellement compatible, c'est Dark Sword Miniature. Alors, il faudra faire bien attention au niveau des échelles, puisque l'échelle de base, c'est du 28 mm. Mais du 28 mm pour les animaux de taille moyenne. Alors que chez Dark Sword, toutes les figurines animalières sont en 28 mm. Donc votre souris fait la même taille qu'un blaireau, qu'un chien, qu'un chat. Et c'est là où ça peut avoir une petite conséquence visuelle si vous mixez les deux gammes.
D'accord. Tu nous parlais tout à l'heure du prix du livre. Est-ce que tu pourrais nous donner approximativement le prix d'une bande sur les deux gammes, en fait?
Si vous prenez une bande chez Osorn, donc la gamme officielle, vous pouvez tout à fait vous en sortir quelque chose de raisonnable pour une quarantaine de livres. Je crois que les starters sont à 42 livres. Donc... quand on dit un starter, c'est vous avez déjà votre bande quasiment complète. Après, vous réengagerez des suivants pour combler les pertes, mais vous irez pas beaucoup plus haut. Par contre, par Dark Sword, ça monte sacrément vite. Leurs figurines à l'unité sont à 12 ou 13 euros. C'est pas du tout les mêmes budgets. Vous êtes plus proche de 70 euros la bande pour débuter.
D'accord. Il me semble en plus que Dark Sword, c'est des Américains, non ?
Oui, c'est des Américains, vous avez un revendeur en Angleterre, donc ouais. Jusqu'à présent c'était facile, depuis janvier je ne sais pas trop comment ça va tourner, mais voilà, et de toute façon, Osworld Miniature est aussi en Angleterre, mais il y a quelques boutiques spécialisées en France qui en revendent.
D'accord, ça c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est toujours difficile les produits anglais de se les procurer, surtout quand c'est pas très très connu. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la création en fait des bandes et sur le monde un peu de ce jeu, sur l'univers de ce jeu ?
Bah, tu fais bien de parler de bandes puisque c'est justement l'objet du podcast. C'est de l'escarmouche et c'est l'affrontement de bandes rivales. Donc, que tu joues royaliste, coquin, bête libre ou des animaux sauvages, ta bande elle se composera toujours de la même manière. Tu as un leader qui te représente. et un second qui pourra te remplacer si tu meurs. Et après, tu engages des, on va dire, des hommes de main ou des bêtes de main et tu les équipes. Tu as une multitude de races jouables. C'est mixable au sein de ta bande, c'est-à-dire que toute race ou toute espèce peut être incorporée dans une bande. Tu peux très bien avoir un furet, un lièvre, un chien et un chat dans la même bande avec un oiseau et une grenouille. Ça, tu ne te bats pas par race. Tout le monde est mélangé. Tu peux vraiment mixer comme tu le souhaites. Après, la manière dont c'est classé, il y a 3 ou 4 classements, c'est-à-dire tu as les petits animaux, les moyens, les grands et les très grands. Sauf qu'au niveau des règles, les grands et les très grands, ça se passe à peu près de la même manière. Donc ça va de la souris jusqu'au blaireau ou gros chien.
D'accord. Alors, la question que je voulais te poser, parce que c'est vrai que quand on avait parlé de présenter ce jeu, j'ai un peu fouillé, puis, parce que moi, je ne connaissais pas du tout le jeu. Là, hormis la taille des animaux qui les caractérisent, est-ce qu'il y a des profils est-ce que il y a des profils nommés? Est-ce que, comment ça se passe? Ou est-ce qu'on peut jouer ce qu'on veut ou...
Alors, il n'y a pas du tout de profil nommé, puisque ce jeu fait la part belle à la narration. Tu es là pour faire vivre ta bande. Donc, tu as 9 caractéristiques pour définir chacune de tes bestioles. Donc, tu vas de l'attaque, la défense, le camouflage, l'agilité. Enfin, ça parlera beaucoup aux rôlistes, puisque ça ressemble un petit peu aux fiches de perso qu'avaient les premiers jeux de rôle, donc que ce soit Warhammer en jeu de rôle ou d'autres. Donc c'est quelque chose qui parlera vraiment à ceux qui ont fait du jeu de rôle. Voilà, tu as tes 9 caractéristiques. Par contre, ce n'est pas une valeur chiffrée que tu vas avoir. C'est une valeur de dés. Tu pourras utiliser tout ton petit set de dés de plein de couleurs que tu as acheté pour ton époque jeu de rôle, puisque ça va du D4 au D12. Et plus tu es fort, plus tu jettes un dé élevé. Moins tu l'es, plus ton dé, plus ton dé est petit. Donc, comme ça, il n'y a pas de tableau. C'est juste un jet en opposition pour chacune des actions que tu fais. Chacun jette un dé. En fonction de ta valeur de dé, si tu es bon, tu vas acheter un dé 10. Si tu es moins bon, l'autre en face va acheter un dé 4. Bon, c'est plus facile de faire un gros chiffre avec un dé 10 qu'avec un dé 4. Et c'est sur ça qu'on voit la différence entre chacune de tes figurines.
Donc le système de jeu est basé, on va dire, en gros, uniquement sur ces gens en opposition. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est très très accessible pour chacun.
C'est très accessible puisque le but, c'est de t'attacher à tes personnages et de les faire progresser, leur ajouter des compétences ou, en dépensant de l'XP, de leur faire passer un niveau de dé. C'est-à-dire que celui qui démarra, par exemple, en attaque avec un D4, vous pouvez dépenser de l'expérience pour lui obtenir un D6 pour la bataille d'après.
D'accord.
Donc non, le but, c'est de simplifier les règles pour que les règles ne soient pas un frein à la narration. Voilà, c'est un jeu de campagne, c'est un jeu de club ou de famille. Voilà, il n'y aura pas de tournoi dessus. Le but, c'est de faire vivre une histoire à votre équipe et de la faire évoluer au fil du temps.
Oui, et puis c'est vrai qu'avec la gamme de figurines très, très immersive, c'est un plaisir quoi, quand tu peins tout ça.
Ouais. Alors, donc dans tout ça, tu nous as expliqué un peu le système de dés. Est-ce qu'il y a de la magie?
Alors, un petit peu. C'est vrai que c'est pas la magie qui vous fera gagner un scénario. C'est plus de l'utilitaire. Votre magicien ou votre moine, en fonction de la faction, ils porteront des noms différents. Il est là pour vous soigner, pour vous donner une action supplémentaire, pour donner quelques petits malus, par exemple de détection sur vos adversaires. Voilà, c'est une boîte à outils, le magicien. Il vous aide. Vous devez le protéger parce qu'il est de base un peu plus fragile, mais il est là. Voilà, c'est pas le point fort du jeu. C'est un utilitaire pour vous permettre de vous en sortir et de gagner l'objectif.
D'accord. Oui, d'accord. Donc là, créer une bande, on va dire, full magie n'a pas forcément un intérêt particulier en vérité. C'est pas grâce à ça qu'on va pouvoir gagner, quoi.
Non, du tout, et ça vous rendra en fait spécifique dans un domaine, et ce jeu est fait pour pouvoir s'adapter à toutes les situations, donc vaut mieux choisir un petit peu d'agile, un petit peu de rapide, un peu de coriace pour pouvoir aller au combat quand même. Voilà, c'est...
D'accord.
Vous imaginez, vous
Bon,
êtes le leader d'une petite bande, il faut pouvoir répondre à toutes les situations, quoi qu'il se passe. Donc vous ne pouvez pas vous concentrer sur un seul domaine.
d'accord. On en parlait en off pour les volants. Donc là, tu nous parlais tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait pas mal d'animaux. Moi, je t'avais dit les volants en général, j'aime pas trop les oiseaux et trucs comme ça, parce que je trouve ça un peu rébarbatif à peindre. Et puis même esthétiquement, c'est pas mon délire. Est-ce que voilà de pas prendre ces bestioles-là, est-ce que c'est se contraindre à ne pas utiliser un système de jeu ou non, on peut quand même s'en sortir sans volant en fait.
Non, du tout. Tu peux. Pour être parfaitement honnête, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime pas trop non plus le visuel des volants. J'en joue pas. J'en joue pas. Donc, je perds la possibilité de grimper sur les endroits en hauteur sans jet d'escalade. Mais c'est tout, en fait. Tout, dans
D'accord.
ce jeu, tout est fait pour que tu puisses jouer comme tu as envie. Tu veux faire que des lapins? Tu te fais une bande que de lapins. Tu as le droit. Tu as quelques bonus quand tu fais du monorace. Quelques malus, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu aimes une grenouille, mais tu veux aussi un blaireau, tu prends ce que tu veux. Et le volant, c'est la même chose. Ça ne t'enlève rien de ne pas en avoir. Ça t'enlève que les compétences du volant. Donc de pouvoir grimper facilement sans jeter quelque part.
D'accord. Okay. Alors, l'autre question que je voulais dire, c'est voilà, maintenant on a créé notre bande et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe?
Ouais, ça, c'est une bonne question. Et pour moi, en fait, à l'instar de Mordheim, qui est son ancêtre direct, c'est Burrows and Badger, bien que jouable en one shot, ça prend toute sa saveur en campagne narrative. Tu as 8 scénars dans le livre de base, mais après, libre à toi d'en créer plus, et l'idéal, ça reste quand même un jeu de campagne. Tu te fais une petite campagne et. La phase avant-partie et la phase après-partie, de toute façon, t'aideront à savoir comment tu dois faire ton prochain scénario. C'est-à-dire que si tu allais piquer un sac de grains chez ton adversaire, bon, bah forcément, ton scénar d'après, soit ça va être tu t'enfuis pour ramener le sac de grains jusque chez toi, soit bah, tu as une vengeance de la part de la bande rivale. Donc voilà, le but de ce jeu, c'est de vous faire vivre des aventures, des histoires. Et une narration agréable. Donc, les règles sont minimisées pour que ce soit le plus facile possible et pour que vous puissiez vous immerger dans ce jeu, voilà, en club ou avec des amis. Voilà, c'est le but, c'est la narration et voilà, vous remplissez vos scénarios. Donc, n'importe quelle histoire, ça peut être voilà, du vol de grain, aller libérer un de vos copains ou aller superviser une opération quelque part, tendre une embuscade. Tout est possible. Et à la fin de chaque scénario, il va falloir payer vos hommes de main. Donc, en fonction de ce que vous aurez gagné, vous payez, vous gagnez de l'expérience pour chacune de vos figurines. La différence de. C'était peut-être un petit peu pour moi. J'ai parlé de Mordheim tout à l'heure. Burrows and Badger est ce qu'aurait dû devenir Mordheim ou Frostgrave, par exemple. C'est-à-dire que vous jouez avec moins de 10 figurines, et je trouve ça ridicule d'avoir de l'expérience et des vraies compétences que sur votre leader. Là, chacun de vos personnages, c'est un héros, en fait. Vous le formez comme vous voulez, et si un jour votre leader doit mourir, le second prend sa place, et un de vos autres sbires devient le second. Donc ça peut pas être juste du pécor lambda, il faut que vous leur ayez donné un peu d'expérience, un nom. Voilà, c'est. Ouais, on est à la limite entre le jeu de rôle, le jeu vidéo ou bah, la Baldur's Gate ou similaire, où vous avez plusieurs personnages, c'est tous des héros. Et bien là, c'est pareil, le but, ça va être de faire progresser cette bande-là.
Oui, là tu parlais tout à l'heure donc du coup de la similitude un peu avec les jeux de rôle. C'est vrai que là on parlait précédemment de profil nommé, donc effectivement il n'y a pas de profil nommé, mais vu que c'est toi qui vas créer tes personnages et les nommer, c'est vrai qu'il y a une espèce d'identification et
Oui.
c'est vrai que ça fait très très jeu de rôle, sauf que là, au lieu, on va dire, du classique jeu de rôle où tu t'identifies à un seul et unique avatar, là, du coup, t'as carrément une bande, quoi. Donc,
Ouais,
c'est vrai que c'est
t'identifier
assez génial.
à ta bande, à ton équipe. Voilà. Je trouve ça génial. Ça apporte quand même un petit point négatif. C'est comme vous achetez de l'équipement pour vos figurines. L'idéal, ce serait d'avoir du WYSIWYG, mais vous n'allez pas découper vos figurines à chaque fois que vous leur changez leur arme. Et c'est la petite limite sur cette partie-là. On verra plus tard les aspects négatifs et positifs, mais ça, c'est une petite limite qui nuit à l'immersion. C'est-à-dire que vous allez vouloir équiper votre figurine telle qu'elle est.
Ouais,
Parce
c'est clair.
que pour coller, quitte à s'immerger et être à fond dans le narratif, vous allez vouloir que votre. Bah, je sais pas, je prends une figurine que j'aime beaucoup, c'est un écureuil avec une hallebarde et une armure qui va jusqu'à sur sa queue. Bah, vous allez avoir qu'une envie, c'est de lui acheter une armure lourde de plaques, comme elle est visuellement, et une hallebarde. Ça serait dommage de lui mettre une épée et un bouclier alors que c'est pas ce qu'il a en vrai.
Ouais, c'est clair.
Donc.
Je voulais te poser une question, puisqu'on a parlé tout à l'heure des figurines. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la qualité des figurines? Est-ce que c'est des bonnes qualités? Est-ce que c'est de la résine? Est-ce que c'est de l'alliage? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les figues?
Alors, ce sont toutes des figurines en métal. Au niveau sculpture, de toute façon, le choix graphique, c'est old school. Donc, voilà, c'est un peu désuet et tout au niveau du visuel. Clairement, comme voilà, Robin des Bois de quand on était môme. Donc, il y a une certaine. Enfin, c'est presque des figurines issues d'un livre pour enfants. Donc, il n'y a pas énormément de détails. Quoique, je trouve qu'au fur et à mesure des sorties, qualitativement, c'est de mieux en mieux. Mais elles sont très accessibles pour la peinture. La gamme officielle de Hawthorne est plutôt raisonnable. Vous allez je crois, c'est 2 livres 40, les figurines les moins chères, toutes les petites, jusqu'à 4 livres 50, les plus grosses, ou 5 livres, quelque chose comme ça. Donc non, c'est de la figurine bah, comme il y a 20 ans, quoi, des figurines en métal à l'unité. Vous choisissez votre petite figurine, elle arrive conditionnée de manière sympathique avec un mot du créateur. Non, c'est toujours c'est des belles petites figurines. Après, ça c'est sûr, ça n'a rien à voir avec une magnifique figurine de chez Games ou de chez Corvus Belli. Voilà, c'est du métal à l'ancienne,
Oui, de toute
mais du joli
façon,
métal.
voilà, on n'est pas sur ce jeu dans l'espoir d'avoir oui, de la qualité vraiment top top, mais ben, quoi que moi j'aime bien l'old school, donc après ça parle à chacun ou pas d'ailleurs,
Bien
mais
sûr, bien
voilà, moi
sûr.
j'aime bien l'old school. Alors écoute, on a fait un peu le tour du système, un peu le tour des figurines, tout ça, mais je propose maintenant bah, que tu nous fasses un petit panel des points négatifs et positifs du jeu, ce qui toi t'a paru bien, moins bien, voilà, pour que nos éditeurs aient un peu voilà, une vision du jeu bah, de la part d'un joueur,
Ouais,
surtout.
d'accord. Bah, typiquement, on vient de parler des figurines. C'est vrai que même si la gamme s'étoffe, c'est encore un peu limité. C'est une jolie gamme, c'est sympa. Je sais plus, je crois qu'il y a 80, il y a 80 références. Bon, il y a quelques doublons, donc vous n'aurez pas 80 références, mais bon, ça s'étoffe à coup de Kickstarter. Alors, qui sont des Kickstarter pour des précommandes. Quand le Kickstarter se lance par Michael Lovejoy. Toutes les figurines, vous les voyez, il n'y a pas de stretch goal ni rien. C'est juste, en fait, ça permet de faire des précommandes pour la production initiale, pour éviter d'avoir des ruptures et tout. Donc, voilà, il sort un voire deux Kickstarter par an, des trucs très rapides. Vous avez un mois de campagne, vous êtes livré le mois d'après ou le mois suivant. Donc, non, ça vient souvent. Donc, c'est. Pour l'instant, je le mets en négatif, mais peut-être que plus tard, la gamme de figues, ce sera un point positif du jeu. Alors, un gros point négatif, pour l'instant, il n'y a pas, pour l'instant, et puis je pense qu'il n'y en aura jamais d'officiel, il n'y a pas de VF. Donc les fiches de référence sont déjà traduites. Il faudrait des âmes charitables, je veux bien commencer, mais Ça va prendre un peu de temps pour traduire le bouquin en français. Voilà, ça c'est un point assez négatif, même si c'est accessible. Il faut quand même lire et comprendre l'anglais assez bien pour pouvoir jouer à un jeu totalement anglais. Je vais le mettre en point négatif parce qu'effectivement beaucoup cherchent du tournoi et du compétitif. C'est clairement pas fait pour ça. C'est clairement, si vous voulez faire une partie ou du compétitif, je ne sais pas comment vous allez pouvoir le faire. Enfin, il n'y a pas d'intérêt puisque vous avez une somme d'argent à dépenser au début pour créer votre bande. Si vous achetez de l'équipement pour votre repère ou de l'équipement, on va dire, utile pour les phases hors-jeu, je vois pas comment vous pouvez jouer ça en tournoi. Après, alors, je vais le mettre pour finir les aspects négatifs, mais je vais le mettre aussi pour démarrer les aspects positifs, c'est le choix du thème. C'est sûr que ce jeu-là aurait été sorti par une major dans un thème medfan ou post-apo, ça serait un best-seller. Aujourd'hui, le jeu anthropomorphique sur l'Angleterre du Moyen-Âge, ouais, ça peut rebuter certains, moi c'est ce qui m'a plu, mais c'est un choix graphique qui peut ne pas plaire à tout le monde. En bon point, on peut dire quand même que voilà, vous pouvez avoir un jeu, le livre de règles à 20 balles, vous achetez une bande pour 40 ou 50 euros, ça fait pas un investissement énorme pour pouvoir jouer. Et avec vos 40 ou 50 euros, voilà, vous pouvez jouer. Vous avez tout pour jouer. Donc, forcément, moi, ce qui me plaît, comme je suis un joueur narratif, c'est des campagnes et des scénarios riches, et vous pourrez faire ce que vous voulez, vous pourrez inventer vous-même vos campagnes. Et voilà, pour moi, c'est le point fort. En plus des règles qui sont originales avec cette histoire de dés différents en fonction de votre niveau, mais le point fort, c'est la part belle faite aux joueurs narratifs. Vous voulez vous raconter des belles histoires et vivre quelque chose avec des copains ou même avec vos enfants. Mes enfants grandissent. Voilà, c'est un jeu super pour ça.
Je rebondis un peu sur les points forts et faibles. Tu parlais du choix du thème. Alors moi, je vais juste dire que personnellement, c'est aussi ce qui m'attire, justement, c'est cette originalité anthropomorphique, puisque pour faire un peu une analogie avec un système de jeu français, on a Briscard chez nous qui marche pas mal, justement, parce qu'il utilise cette imagerie d'animaux anthropomorphiques. Ouais. Moi, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment... En fait, je mettrais vraiment... Enfin, moi, personnellement, je mettrais vraiment pas ça dans un aspect négatif, puisque c'est...
Les animaux, ça marche en ce moment, je suis d'accord avec toi, sur Carnage ou Briscard, qui ils font des super figurines.
Ouais.
Mais là, c'est en plus. Donc déjà, tu prends des animaux, mais tu les sapes comme des pécores du 15e siècle, quoi. C'est, ouais. Tu vois, tu les prends... Et puis, tu les mets pas avec des superbes armures, enfin, t'as quand même plus voilà de souris des champs que de souris des villes dans Burrows and Badger. Ouais, donc voilà, c'est ces choix graphiques qui vous avez pas d'armes surdimensionnées, t'as pas de même le blaireau qui est l'animal le plus fort dans ce jeu n'est pas ultra impressionnant par rapport à une loutre qui est, ou un lièvre qui sont les animaux moyens du jeu quoi. Enfin c'est voilà, c'est un choix graphique qui, moi aussi, je suis d'accord avec toi, me plaît énormément. C'est ce qui m'a attiré vers ce jeu. Mais ça peut en refroidir quelques-uns quoi, qui adhèrent pas, mais comme les gens peuvent ne pas adhérer à l'historique ou au futuriste. Ouais, voilà.
J'avais une petite question, parce que ça, on a un peu zappé. Du coup, j'aimerais bien savoir sur quelle taille de surface du jeu se joue ce jeu, et puis est-ce qu'il y a, on a parlé des figurines, mais est-ce qu'il y a aussi des décors
oui, qui c'est un, c'est un oubli de ma part. Alors, la surface, c'est libre. Je pense que pour démarrer, une petite table de 60 par 60, c'est bien. Vous jouez avec ça, vous mettez quelques décors. Comme le jeu vous permet de sauter d'un toit à un autre et de grimper, d'escalader, de monter sur des échelles et tout, faut bien. Garnir votre table avec des décors. Mais voilà, une table de 60 par 60, vous êtes pas mal. Je pense qu'on peut monter, si vous voulez faire un affrontement à 3 ou 4, pouvez monter sur une table d'un mètre, 1m20. Mais après, quand vous avez que 4 ou 5 feet, 4 ou 5 feet à côté, 1m80 par 1m20, enfin, avant que vous vous croisiez, ça va être très long. Donc, voilà, moins d'un mètre sur un mètre, je pense que c'est la taille idéale. Pour les décors, Burrows and Badger, ils sont associés à Sarissa Precision pour sortir une gamme plutôt économe par rapport à ce qu'ils font d'habitude, avec quelques décors sympas. Bon, après, sans aucune prétention, hein, j'ai sorti un ou deux décors de mon côté aussi pour eux. Voilà, c'est bon, n'importe quel décor médiéval pourra faire l'affaire. Mais typiquement, les blaireaux vivent dans des terriers. Bon, bah, vous avez quelques décors un peu uniques où c'est l'entrée d'un terrier avec une boîte aux lettres à côté. Enfin, c'est des choses qui s'adaptent. Mais vous pouvez très bien prendre vos décors vos décors classiques pour faire une belle table. C'est pas un problème.
D'accord. Tu nous parlais des décors que tu avais sortis, tu as sorti ça, tu peux nous rappeler le nom de ta marque pour que les gens, les auditeurs puissent aller voir éventuellement aussi tes décors.
Ouais, alors moi je fais partie de l'entreprise Normandy Wab, donc Normandy Wargame and Battlefield. À une époque, on a cru que ça ferait pas mal de mettre de l'anglais, on aurait dû mettre du français, puisqu'en définitive nos clients c'est aller à 80% sur l'hexagone. Et voilà, on a sorti quelques décors pour Burrows and Badgers. Vous reconnaîtrez par exemple sur un lavoir le symbole des royalistes du jeu qui est sur ce lavoir. Et justement, les créateurs du jeu l'ont même partagé sur leur page officielle. Enfin, non, c'est un petit jeu où la communauté est sympa aussi. Enfin, c'est cool. Donc ça vous demande pas de matériel particulier, juste des dés, mais on en a tous. Le bouquin est accessible, il n'y a pas 50 suppléments, il y en a quelques-uns, dont certains que vous trouvez gratuitement sur le site de l'éditeur. L'aspect économique est raisonnable. Voilà, moi c'est un fort conseil que je vous donne, d'au moins essayez, vous laissez tenter par ce jeu.
Alors, je te présentais en introduction comme étant le créateur du groupe francophone. Tu peux nous dire sur le groupe, il y a des comment ça se passe? C'est juste un groupe qui donc regroupe les joueurs? Est-ce qu'il y a des activités? Est-ce que vous faites des concours de peinture? Comment ça se passe?
Pour l'instant, et je dois avouer que c'est totalement ma faute, c'est juste, on a réuni les joueurs français intéressés, on a mis à disposition toutes les aides de jeu qu'on a pu trouver, que ce soit en VF ou en VO, et tous les petits scénarios qui sont sortis en supplément fournis par la page anglaise et compagnie. Mais faute de temps, je dois avouer que j'ai pas lancé de plus d'activités que ça. Donc si quelqu'un est motivé, par exemple, je sais pas, un monsieur qui démarrait par ni et qui finirait par vu ni connu voudrait me rejoindre sur la page et organiser un petit concours de peinture de temps en temps, ça serait avec plaisir. Avec plaisir. D'accord. Cette page, elle demande qu'à vivre et être alimentée. Voilà, ça serait avec plaisir. Là, pour l'instant, c'était plus la manière de pouvoir retrouver facilement sur Facebook et d'un coup tous les fichiers en VF et pour ceux qu'on n'a pas traduit en VO, voilà.
Ouais, un lieu pour centraliser un peu tout ça, quoi. Donc, voilà, bah, écoutez, j'espère qu'on vous aura donné envie de découvrir le jeu. Donc, la page francophone, c'est Bureaux and Badger, communauté francophone, si je ne me trompe pas, c'est ça le titre?
Exactement, c'est ça.
Voilà, donc voilà, je vous invite à aller découvrir cette page et puis ce jeu. C'est un petit jeu donc qu'on avait envie de vous faire découvrir parce que c'est vrai que y a beaucoup de jeux d'escarmouche et la visibilité est souvent accaparée par les grandes majors comme on parlait tout à l'heure. Donc je te remercie Gwenaël pour être intervenu avec expertise sur ce jeu-là. Et puis, je pense qu'on te retrouvera régulièrement sur le podcast, de toute façon, pour d'autres sujets ou pour des petites chroniques.
Ouais. Avec plaisir. À bientôt pour pour une autre pépite qui sortira peut-être de nulle part. Et puis, on vous présentera sur un autre thème. Merci Nivu. Et puis, à bientôt à tous.
Ça marche. Bon, merci les auditeurs de nous avoir écoutés. N'oubliez pas notre rendez-vous hebdomadaire, l'édito, c'est le vendredi, donc ça sort en début d'après-midi où on va vous parler des news figurines hobby. Et puis, on aura aussi quelques chroniqueurs qui viendront parler de leur coup de cœur ou pousser un petit coup de gueule de temps en temps. Voilà, merci à tous, à bientôt.